Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission Musique au pluriel, avec Christian Lux, accompagné ce jour, comme chaque fois, de Bruno Point. Nous regrettons l'absence de Paul Turchet, alité, mais qui a pu travailler avec nous pour préparer cette émission consacrée à Verdi. Cette émission sur Verdi sera suivie d'une seconde émission sur Verdi encore autour de ses dernières œuvres. Donc je peux simplement dire que Verdi, je connaissais sans connaître vraiment, mais comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sans doute, de nombreuses airs, de nombreux arias sont encore dans vos cœurs et vos oreilles, puisque c'est un homme très important pour la musique européenne et même mondiale. Bruno Point, vous voulez donc nous présenter en quelques mots Giuseppe, qui est né, faut-il le rappeler, c'est très amusant, qui est né français. Il s'appelait donc Joseph Fortuna Francis, puisque dans cette région près de Parme, dans cette région italienne, elle était sous domination napoléonienne. Donc c'est un département français qui s'appelait Taro. Voilà.
Vous venez d'entendre la présentation de la première émission que nous avons consacrée à Verdi. Présentation faite par notre ami, notre compère, notre compagnon de route musicale, Christian Lux. Vous le savez, Christian Lux nous a quittés. Sa chaise est vide. Bruno et moi continuerons cette émission seuls. Il nous manque et il nous manquera. Pensons à Victor Hugo, Absentes ad sunt. Les absents sont là. Victor Hugo aussi dans les contemplations. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Et enfin Tacite. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Dans notre cœur, Christian sera là.
Situons Verdi pour cette deuxième émission. Il est né en 1813 et nous l'avons laissé pour le retrouver aujourd'hui avec Aïda en 1871. Verdi a donc 58 ans. Il est un compositeur choyé, voire d'une renommée extraordinaire, évidemment dans son pays, en Italie, le paradis de l'opéra, mais il l'est aussi partout en Europe. Et après Aïda, que nous allons présenter, il est un homme riche, il est un bourgeois, un propriétaire terrien, il va se retirer pendant une quinzaine d'années. Il écrira le Requiem, nous en parlerons, à 61 ans. Puis, il va écrire deux chefs-d'œuvre absolus. Beaucoup de ses œuvres sont des chefs-d'œuvre, mais là, vraiment, sur la fin de sa vie, à 74 ans, il va produire Othello. Puis, à 80 ans, Falstaff, tous deux issus de Shakespeare, nous en parlerons. Et nous voyons donc que cet homme, jusqu'à la fin de sa vie, il mourra à 88 ans, a été un très très grand créateur et qu'il a conclu, je dirais, son grand parcours par des chefs-d'œuvre absolus que seront Othello et Falstaff. Et là, présentons Aïda fort connue, qui se situe en Égypte. Paul va nous parler d'Aïda.
Après les deux monuments de l'opéra, dans le style grand opéra que sont La Force du Destin et Don Carlos, Verdi prépare en principe pour l'inauguration du canal de Suez pour 1869, à la demande du théâtre italien du Caire, un opéra qui est donc Aïda. Il sera en fait donné l'année suivante, en 1870. Aïda, c'est un amour contrarié, bien sûr. Il y a du sublime dans les mélodies qui vont être composées par Verdi, les mélodies de l'amour impossible. Amour impossible, puisque nous sommes en Égypte. Il doit être donné donc pour l'opéra italien du Caire. Nous sommes en Égypte et nous sommes en temps de guerre, puisque Thèbes est menacée. Les Éthiopiens menacent les Égyptiens. Radamès est un guerrier, c'est un officier. Il va s'éprendre, et c'est là l'amour impossible, bien sûr, d'une ennemie, entre guillemets, Aïda, cette esclave. L'amour impossible, comme presque toujours dans l'opéra, finira évidemment mal.
Vous venez d'écouter Radamès, rôle tenu par un ténor, déclarer sa flamme, son amour envers la belle esclave éthiopienne Aïda, l'air s'intitulant Céleste Aïda. Et ce même Radamès va être chargé de combattre les Éthiopiens et va revenir victorieux. Et là, nous allons entendre l'air fameux que la terre entière connaît, les trompettes d'Aïda, le retour à la gloire de Radamès. Air qui symbolise Verdi, Verdi qui, plusieurs fois dans sa vie, regrettait, et le disait avec humour, d'avoir écrit des fanfares. Mais nous verrons, et nous savons déjà qu'il n'a pas écrit que des fanfares, mais des opéras avec des airs absolument magnifiques qui portent la voix humaine, et nous le verrons encore plus aujourd'hui avec Othello et Falstaff. Mais néanmoins, nous ne nous privons pas de ce spectacle qui a dû au Caire, puis ensuite à Milan, puis dans d'autres opéras italiens, puis à Paris, vraiment briller de tous ses feux, de toute sa flamme. Écoutons les trompettes d'Aïda.
Parvenons à la scène finale. Radamès, accusé de trahison au gré des intrigues, est condamné à être emmuré vivant dans une crypte. Il se lamente sur son sort et surtout sur le fait qu'il ne reverra plus Aïda. Mais il se trompe, Aïda s'est introduite dans la crypte pour mourir avec lui. Ils unissent leurs voix dans un ultime duo qui est de plus en plus doux musicalement. Ô terra, adieu. Adieu. Ô terra, adieu. Et le rideau va tomber lentement sur la mort d'Aïda dans les bras de Radamès avec l'orchestre qui s'évanouit pour rejoindre le silence.
Verdi a 61 ans. Il vient donc d'obtenir un énorme succès avec Aïda. Il pense que ce sera son dernier opéra. Il va conclure sa production musicale par un requiem. Le requiem a une histoire. Verdi avait participé à l'écriture d'un requiem en l'honneur du grand compositeur italien prédécesseur de Verdi que fut Rossini. Mais cette œuvre composée par plusieurs compositeurs n'a jamais été produite. Aussi, Verdi s'est lancé dans la création d'un requiem intégralement composé par lui, en l'honneur de son ami Alessandro Manzoni, poète et écrivain italien, un grand partisan comme lui de l'unification italienne. Voici donc ce que Verdi pensait être sa dernière œuvre, le Requiem. Nous verrons très rapidement, après l'écoute du Dies Irae, très fameux de ce Requiem, qu'il n'en fut pas ainsi, puisque Verdi, 15 ans après, se remit à la composition et nous écouterons Othello et Falstaff. Mais pour l'instant, voici le Dies Irae du Requiem de Verdi. Nous l'avons vu en 1874, après Aïda et après ce requiem, Verdi se retire. Il se retire, il est un grand propriétaire terrien, et il se retire, il pense qu'il est âgé et qu'il ne composera plus. Mais c'est compté sans l'éditeur Riccardo, éditeur de partitions de musique, qui l'invite à dîner en compagnie de Arrigo Boito, par ailleurs aussi compositeur, mais surtout grand librettiste. Et lors de ce dîner, est lancée l'idée d'un nouvel opéra. Verdi n'est pas décidé, mais est lancée l'idée d'un livret sur Othello, d'après Shakespeare. Et on verra que très rapidement, dans l'esprit de Verdi, eh bien, naît l'idée d'écrire cet opéra. et d'utiliser ce chef-d'œuvre qu'est Othello, cette grande histoire avec des personnages extraordinaires. Et Verdi, quelque part, est aussi fier de penser qu'il va à nouveau composer et de se saisir d'une œuvre. Nous allons écouter plusieurs extraits d'Othello, qui est véritablement un chef-d'œuvre qui a des airs de musique absolument lumineux et où Verdi va progresser. Faut-il parler de progrès dans une vie musicale, mais quelque part il va vivre avec son temps, c'est-à-dire que après des opéras très italiens, il va évoluer dans sa musique et avoir une musique peut-être due à l'âge de plus en plus contemplative. À l'époque, existait une grande rivalité au niveau européen entre Verdi et Wagner. Et Verdi, qui était un esprit supérieur, ne participait pas à cette rivalité. Il disait « Wagner est un très grand et le grand compositeur allemand. Mais nous, Italiens, n'écrivons pas de la musique allemande, écrivons de la musique italienne. Qu'est-ce que la musique allemande ? C'est une musique cérébrale, intellectuelle, très souvent composée pour le piano, pour l'orchestre, pour des instruments solistes. Alors que qu'est-ce que la musique italienne ? Et ça n'est pas moi qui le dis, mais Verdi, c'est le chant. Le chant. Ne trahissons pas notre âme et notre musique, c'est le chant. Eh bien, il va à la fois progresser, c'est-à-dire suivre son temps, sa musique va s'épanouir différemment. Il est né, nous l'oublions pas, en 1813 et nous sommes en 1887, hein, c'est-à-dire qu'il a 74 ans. Donc tout le monde a changé en 74 ans, y compris la musique. Mais cette musique, elle va rester du chant italien. Écoutons un merveilleux duo d'amour entre Othello et Desdemone.
Thank you.
Après ce magnifique duo d'amour d'un couple qui s'aime, nous découvrons dans cet opéra le sommet, le monstre absolu de la traîtrise, Iago, qui est une enseigne de vaisseau d'Othello et qui est jaloux de n'être pas son bras droit et jaloux tout court de tous et de tout le monde. Iago va instiller dans le cœur d'Othello le poison de la jalousie. Par un stratagème, il va évidemment faire croire à Othello en utilisant vraiment des procédés extrêmement bas et en utilisant les autres. Il va faire croire à Othello que Desdémone le trompe. Et nous arrivons sur cette scène où effectivement Othello, dans l'acte 3, dit à Desdémone, tu ne pouvais pas m'infliger tous les maux de la misère, de la honte, etc. C'est cet instant crucial que nous écoutons maintenant.
Ed onde, con calma
Nous avons écouté le duo d'amour de Desdemone et Othello, puis la jalousie dans le cœur d'Othello, instillée par Iago, le sombre Iago, jaloux de tout, jaloux de Desdemone, jaloux d'Othello, jaloux de Cassio, à tel point que, au final de cet opéra, Othello, qui perd la tête, oublie tout, va tuer Desdemone en l'étouffant. Et à ce moment crucial, va lui être annoncé le mensonge de Iago, en fait que tout cela a été monté par Iago et que Desdemone ne lui était pas infidèle, mais bien au contraire l'aimait. Et là, on a tout dans ce dernier air d'Othello. On a le remords, on a l'amour qu'il éprouvait, en fait il redescend sur terre. Il a tué Desdemone, tout s'évanouit et tout d'un coup il comprend tout. Donc on va avoir en une seule grande tirade la peur, la honte, l'amour, la jalousie qui s'éteint et il va finir par se donner la mort. Après une barbarie pareille, que faire d'autre? Et nous allons donc écouter ce final et la mort d'Othello.
Thank you. stanca e muta, è bella. Via creatura, sotto maligna stella,
Après Othello, le sommet de la tragédie verdienne, Falstaff, le sommet de la comédie, de la bouffonnerie, opéra bouffe. Falstaff est joué en 1893. Verdi a 80 ans. C'est son dernier opéra, évidemment. Il trouve encore cette ressource inouïe pour balayer toutes les conventions de l'opéra italien et composer cette comédie absolue d'après Shakespeare, Les Commères de Windsor, ou Falstaff, effectivement, qui est une sorte de bouffon, qui est un alcoolique, se fait mener par le bout du nez dans une farce. L'opéra se termine d'ailleurs sur un air « La vie est une farce ». C'est la pirouette que fait Verdi avant de quitter la composition et le monde. Comme Othello, mais dans un style évidemment radicalement différent, une concentration absolue des moyens, on va à l'essentiel de l'intrigue. On supprime les personnages inutiles, on supprime toute scorie musicale et on a une musique d'une concentration, d'une précision totalement aboutie qui confine évidemment au génie absolu.
Nous avons vu pour Othello que c'est le grand éditeur Ricordi qui avait, lors d'un dîner organisé avec Arrigo Boito, le librettiste, auteur d'opéra aussi, amené Verdi à s'intéresser à Othello, grande œuvre de Shakespeare, et à renouer ainsi avec la composition et créer un opéra qui fait date dans toute l'histoire de l'opéra. Là, ce n'est pas Ricordi, mais Boito seul qui a amené petit à petit Verdi à s'intéresser à nouveau à Shakespeare et à une autre pièce, Les Commères de Windsor, et a donc vraiment se passionné pour écrire une musique pour une comédie et non pas pour un drame. Nous allons donc découvrir ce personnage de Falstaff, l'homme qui aime s'amuser, qui aime boire, qui n'est pas très fiable, qui aime séduire les femmes, mais qui n'a pas compris qu'il avait pris beaucoup d'âge, qu'il avait beaucoup d'embonpoint, et qu'il ne séduirait plus personne, mais néanmoins, pour de l'argent, car il manque d'argent, il veut rencontrer plusieurs femmes et met en place un scénario très ridicule qui va être vite mis à jour par les dites femmes qu'il entendait séduire, d'autant qu'il a écrit à deux à la fois et que, ainsi que Shakespeare les nomme les commères, ce qui aujourd'hui est un peu péjoratif mais ne l'était pas à l'époque, mais c'est commères comme il peut y avoir des hommes qui sont des compères, autrement dit ses amis, évidemment se tiennent au courant de ce que la vie leur apporte et elles comprennent tout de suite le stratagème. Donc écoutons ce premier extrait de Falstaff, cet homme jovial, pourri de défauts, mais finalement très sympathique.
Giorno di Caras, due lire, tre tocchini, fruga nella mia borsa, due fagiani, un'acciuga.
Un mark, un penny,
fruga,
oh frugato,
fruga.
C'è più uno spicciolo,
sei la mia distruzione.
Thank you.
carne. Se falsa sassottia non è più lui, nessun più l'ama in questa donna.
Falstaff. Falstaff veut donc séduire Alice Ford et Meg Page. Et il leur écrit la même lettre, elle s'en parle et elle déjoue ce grossier personnage qui n'a pas du tout deviné que les femmes étaient beaucoup plus fines que lui. En parallèle, Monsieur Ford, lui, veut marier sa fille Nanetta au docteur Caius, mais elle est amoureuse d'un autre homme, de Fenton. Eh bien, Alice et Meg vont aussi amener, en le grugeant, Monsieur Ford à, non pas consentir, mais à promettre le mariage à sa fille avec Fenton sans le savoir. Et une fois la promesse faite, il comprendra que le tour est joué. On voit donc que dans Falstaff, ce sont les femmes qui ont le beau rôle. Les hommes sont à la limite de la grossièreté ou alors d'une autorité désuète comme M. Ford envers sa fille. Quant aux femmes, elles mènent l'intrigue. Elles jouent de ces hommes et elles vont obtenir ce qu'elles veulent. Et elles vont avoir la vie qui leur est due et non pas ce que les hommes entendaient faire d'elles.
Io vi do l'allegria, botton di rosa. Giungi un buon punto, ma cade un fatto da trasecolo. Anche a te, che cosa? Narra il tuo caso,
narra il tuo,
narra l'orro. Pensa di non ciarlar,
ti pare.
Uivo, ti pare.
Dunque, sì, ma non già sì. A entrarne rei propositi del diavolo sarei promossa in grado di cavalleressa
anch'io
ma te gi
non più parole
che qui sciupiamo la voce del sole
una lettera anch'io
leggi
Sei la gaia, cuore mi comparmai a suonare.
Rispondi al tuo scudiere, John Falstaff, cavaliere. Mostro! 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 Dobbiamo capparlo, né farne in casso, né metterlo in fornetta. Oh, oh, che spasso!
Che allegria!
E mettendo quell'altro e quel tiro.
Quello non è un pallone!
Se ti suona poi, quel re delle porte.
Se scoppia ci sbaccia.
Partiamo di appare di sé.
Se scoppia ci sbaccia. Se scoppia, se scoppia, ci sbaccia.
Nous venons d'écouter Meg et Alice qui découvrent la tromperie de Falstaff qui leur a écrit la même lettre. Elles sont bien sûr en colère, elles vont se venger, mais la qualité de la musique de Verdi nous permet de comprendre que même ces femmes qui sont en colère ne perdent pas le sens des sentiments humains, le sens de la vérité. Et on entend là des voix absolument sublimes qui ne perdent en aucun moment le sens de l'humanité. La suite de Falstaff est donc une grande farce. Falstaff sera bafoué, sera ridiculisé. Il va tomber dans la Tamise, caché dans un sac de linge. Puis, dans la forêt, il va avoir peur. Lui qui prétend être un grand chevalier, va avoir tout à fait peur en croyant voir des sorcières. Et au bout de toute cette comédie, eh bien, M. Ford devra convenir que sa fille va épouser Fenton. Et finalement, Falstaff sera pardonné, quelque part, par tout le monde. Et l'opéra se termine par une grande tirade où tout le monde chante. Tout le monde chante que tout dans le monde est farce. L'homme est né farceur. Dans son cerveau vacille toujours sa raison. Tous dupés, chaque mortel se moque de l'autre. Mais rit, bien qu'il rit, l'éclat de rire final. Écoutons ce merveilleux final plein de vie.
Tutto nel mondo è burla l'uom, pennato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uom,
pennato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uom,
pennato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla l'uom.
Tutti cantanti, 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 tut
avons conclu cette émission par l'éblouissant final de Falstaff, Tout le monde est farce. Nous avons pu écouter tout d'abord trois extraits d'Aïda. Céleste Aïda par José Carreras, La marche triomphale, puis Otera Adio par José Carreras et Mirella Freni, l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Karajan. Ensuite, le Dies Irae du Requiem, dirigé par Claudio Abbado. Puis, trois extraits d'Othello, le duo d'amour, par John Vickers et Mirella Freni, suivi d'un autre duo, mais là où l'amour est plus difficile, puisque Othello est plein de sa jalousie qui va terrasser et Desdémone et lui-même. Puis la mort d'Othello et de Desdémone, bien sûr. Ces trois airs par John Vickers, Mirella Freni et l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. Ensuite Falstaff, un premier extrait avec le chanteur Renato Bruzon. Puis Meg et Alice, Nan Merriman et Ervanelli, dirigé par Toscanini, et toujours dirigé par Toscanini, l'ensemble des acteurs chanteurs de Falstaff dans Tout dans le monde est farce. Nous vous donnons maintenant rendez-vous à la rentrée et nous avons tous une pensée profonde pour notre ami Christian qui avait initié cette émission et qui l'animait et qui nous manque beaucoup. À bientôt donc et bon été.